UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est comment sortir de la dépression. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « C'est mon histoire », j'ai reçu Audrey Mac qui nous a raconté comment Dieu l'a sortie de la dépression. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs.
Bonjour.
Ça va bien aujourd'hui?
Ça va bien.
Dernier jour de la semaine, vous n'allez pas bien, les sombrils apparemment.
On va très bien.
Ils sont tellement fatigués le vendredi qu'ils n'ont même plus la force de répondre aux questions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important qui touche malheureusement aussi les chrétiens, la dépression. Et c'est vrai que c'est une chose terrible quand on est victime de dépression parce qu'on a l'impression qu'on est au fond du trou et qu'on n'arrivera jamais à ressortir, que c'est comme une fatalité. Ma vie entière va rester dans cet état-là, je resterai dans cet état dépressif toute ma vie. On a goût à rien, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et aujourd'hui, je crois que vous écoutez cette émission et peut-être que vous êtes concerné par ce thème. Et je vous invite réellement à ouvrir votre cœur et à croire que Dieu peut intervenir surnaturellement dans votre vie et vous libérer de cette dépression qui vous écrase depuis peut-être des années. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous tendre une main et vous sortir de ce trou dans lequel vous êtes. Et Jonathan, tu vas encourager nos frères et nos sœurs dans la pensée du jour. Donc Jonathan, où est ta joie quand tout va mal? C'est le titre de ta pensée.
Un titre qui peut surprendre quand on parle de dépression, puisqu'on dit « Où est ta joie ?» et quelqu'un va dire « Franchement, c'est une drôle de question. Comment est-ce qu'on peut parler de joie quand tout va mal? Comment est-ce qu'on peut parler de joie quand justement on n'a plus le goût à rien ?» Les apôtres, à un moment donné, ont été joyeux d'avoir été frappés, d'avoir été bafoués, d'avoir été meurtris pour le nom de Jésus. Bon, ben certes, on peut se réjouir peut-être d'être persécuté, mais qu'en est-il quand on est injustement maltraité, quand on va mal, sans raison, et quand on est là un petit peu dans une tristesse, voire un découragement? Il y a des moments dans la vie où il n'y a rien qui va. Ou peut-être c'est votre cas, vous avez l'impression que le ciel est fermé, obscur, qu'il n'y a aucune lueur d'espoir. Vous savez, ce genre de moment où ben, il n'y a plus d'espérance. Le découragement, et là, ben, le découragement littéralement, c'est perdre courage. On perd courage. Et le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est affronter sa peur, être capable d'aller au-delà de sa peur. Et quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui va faire malgré l'obstacle, malgré la difficulté, malgré la peur et malgré le danger. Et bien, de la même manière, quelqu'un qui est découragé, et bien, qui doit reprendre courage, ça ne veut pas dire que le problème n'est plus là, mais il faut être capable de vaincre, de surmonter, un peu comme David avec son géant Goliath. Alors aujourd'hui, ne perds pas courage, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans la Bible. Mm-hmm. Ne perds pas courage, ma sœur, mon frère, Jésus a triomphé. Vous savez, Jésus lui-même nous dit, on trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et donc, l'argument de Jésus ici, c'est de dire « Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde et qu'avec lui, comme pourrait le dire l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors, il y a ceux qui sont découragés et il y a ceux qui sont désespérés. C'est comme si on était dans un cran plus loin, une étape dans la descente ici, où désespéré, littéralement, c'est ne plus avoir espoir. Il n'y a plus d'espoir. On est tellement découragé qu'on arrive à un point où on devient désespéré, plus d'espoir. La tristesse envahit le cœur désespéré, il n'y a plus de lumière, il n'y a que de la noirceur, et il n'y a même plus l'idée qu'on pourrait peut-être s'en sortir, qu'il y aurait une lueur d'espoir. On est là dans un état désespéré. La tristesse dépressive, c'est ainsi des fois que certains professionnels parlent de dépression. La tristesse dépressive, eh bien, c'est une douleur morale qui engendre une profonde souffrance. Il y a une souffrance ici dans cette tristesse-là. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui passe par des moments ainsi, tels. Et, ou peut-être c'est vous-même, et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? La tristesse peut atteindre tout homme. Le problème n'est pas forcément la tristesse. La tristesse en soi, c'est qu'un état. Jésus lui-même est passé par la tristesse. Souvenez-vous quand Marc nous dit que Jésus va, donc Marc 14, 34, Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mais il ne reste pas dans cette tristesse-là. La tristesse, c'est quelque chose qui ne doit pas être un état de vie, mais qui doit être surmonté. Et évidemment, le contraire de la tristesse, c'est la joie. Alors là, vous voyez peut-être pourquoi dans mon titre aujourd'hui, il y a le mot « joie ». Cette tristesse ne doit pas s'imposer comme un état là qui va tout surmonter et enlever tout espoir de réconfort. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, il y a une solution, il y a un remède. « Ne vous affligez pas, dit le prophète Néhémie, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et la joie ici est une force. Alors évidemment, ça devient un peu compliqué, ou quelqu'un me dira, mais c'est facile à dire quand quelqu'un est triste de lui dire « réjouis-toi ». Hein, c'est facile à dire quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est dépressif et qu'il n'y a plus d'espoir, lui dire « non, non, mais ça va bien aller hein, ». On tape une petite main dans l'épaule en disant « tout va bien aller, réjouis-toi, ça va bien se passer ». Quand on est là dans le noir et qu'il y a dans un état désespéré, on n'est pas dans un mode d'une petite phrase qui va nous dire que tout va bien aller. Mm-hmm. Ça prend quelque chose de plus grand, ça prend une force et la joie est une force ici. Et dans le psaume 13, David nous donne un bon exemple. Il est dans un état dépressif ici dans ce psaume 13, puisqu'il dit « Éternel, tu m'as oublié, jusqu'à quand tu me cacheras-tu ta face? J'ai des soucis dans l'âme, chaque jour des chagrins dans le cœur, mon ennemi s'élève contre moi, regarde, réponds, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Il est même là ici en train de penser à la mort. Et dans ce psaume 13, il y a un point pivot. Il y a un changement, la complainte change de ton tout d'un coup. En musique, on dirait on est passé de mineur en majeur, et ça se termine ainsi dans le psaume 13, verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. Je mets ma foi dans ta bonté. J'ai de l'allégresse. » Et l'allégresse, c'est plus que de la joie. « J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » De l'allégresse à cause de ton salut, c'est ce que David appellera dans le psaume 51, la joie de ton salut. Mmh. Et si aujourd'hui vous êtes dans un état terrible, revenez à la joie de votre salut. Reconsidérez le salut que vous avez en Jésus-Christ. Et là, vous retrouverez cette joie, cette source de la joie. Peut-être que certains ont envie de mourir. Le prophète Élie a eu envie de mourir. Il était là sous un arbre en disant « Maintenant, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il veut mourir. Et l'ange de l'Éternel arrive et lui donne un gâteau et de l'eau fraîche. Le prophète mange ce gâteau et il se rendort. C'est déprimant. Hein. Il va se recoucher. Mais l'ange de l'Éternel revient. Et ça nous montre toute la miséricorde et la bonté de notre Dieu. Parce que le prophète ici n'est pas capable de lui-même de s'en sortir. Il n'y a personne qui peut venir lui dire « Allez, Élie, là, quand même, relève-toi, ressaisis-toi. » Vous savez, c'est le genre de petite phrase qu'on entend souvent, hein, « ressaisis-toi, là, fais un effort !» Non, non, Élie a besoin d'un repas surnaturel. Il a besoin d'un gâteau surnaturel, il a besoin d'une eau surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est de ça dont vous avez besoin. Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il ne fait pas référence ici à son problème dépressif. Il fait référence à ses moments de victoire. Alors aujourd'hui, l'ange de l'Éternel est celui qui veut vous encourager. Dieu est patient à votre égard et il y a un miracle pour vous. Et quelqu'un va dire, mais c'est quoi le remède? Comment ça marche? Eh bien, le remède, c'est de se tourner vers Dieu. Le remède, c'est de trouver en lui la joie qui sera votre force et qui va surmonter votre tristesse. Et je conclue, parce que là, je vois Yveline qui dit, bon, ça, c'est interminable, cette pensée.
Et elle dit dans mes pensées.
Et je conclue avec le psaume. C'est une conclusion de pasteur, hein, ça prend du temps. Une conclusion avec le psaume 33, où David peut dire, que les malheureux écoutent, que les malheureux écoutent, et là je pèse les mots, hein, et se réjouissent. Le malheureux se réjouit. Exaltez avec moi, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et j'insiste sur le verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est qu'à tourner les regards vers lui. Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est qu'à considérer la grandeur de son salut et laisser la lumière de son salut venir réchauffer votre cœur et vous redonner de l'espoir.
Amen. Merci Jonathan. J'aime beaucoup ta pensée, même si elle est longue. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que tu as pris des exemples qui sont vraiment encourageants de personnages bibliques. On peut croire, oui, mais dans la Bible, on ne parle pas de dépression. Bien sûr qu'on en parle. Tu as pris l'exemple de Jésus qui aurait pu vraiment sombrer dans une dépression alors que l'œuvre de la croix arrivait. L'exemple de David, lui, alors c'est sûr qu'il a eu, je pense, beaucoup de phases dépressives quand on lit les psaumes. Mais ce que j'aime avec David, c'est qu'il se ressaisit tout le temps. Et tu as la cité dans ton psaume que tu as cité dans ton dans ta pensée et le psaume 42, ça en est un exemple aussi, il y en a plein d'autres. David dit pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au dedans de moi? Il se parle à lui-même et il se dit espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. David se fortifie, il se parle à lui-même, il ne se résout pas simplement à se dire, voilà, mon état est là et je vais me lamenter sur moi-même et je vais passer mon temps couché à dormir et à me lamenter. Il pourrait le faire, il a toutes les raisons de le faire, sa vie est vraiment tellement difficile à cette période-là, mais il se parle à lui-même, il se fortifie lui-même à son être intérieur et il décide qu'il ne restera pas dans cet état et il prophétise même sur sa vie, il dirait, je louerai encore mon Dieu, je le louerai encore. C'est une merveilleuse méthode de se relever, de se parler à soi-même, de déclarer les bonnes choses sur sa vie.
La Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède pour tout le corps et un esprit abattu dessèche les os. Et c'est vrai que ça fait un peu cliché quelquefois de dire la joie du Seigneur est ma force. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Mais n'empêche que la médecine n'a trouvé aucun remède durable et viable contre la dépression. C'est quelque chose qui reste, qui est latent et quelquefois ça va mieux, mais on rechute, etc. Donc pourquoi ne pas saisir cette simple clé qui est vraie, qui est véritable, qui est éprouvée par la parole de Dieu? C'est la joie du Seigneur, c'est pas la joie des circonstances, la joie des gens. C'est vraiment cette joie que seul Dieu peut donner, parce que quelquefois il y a des dépressions et c'est difficile à vivre pour les gens de l'extérieur. Comme tu disais, on a envie de dire « Ah, ressaisis-toi !» parce qu'il y a des gens qui sont dans des dépressions et ça semble pas, la raison semble pas légitime en fait, mais on s'en fiche un peu en fait de la raison, c'est de ça. La source de la dépression, parce que la personne est dedans, la personne souffre réellement, et qu'on soit dépressif pour une petite raison, une grande raison,
peu importe,
la dépression est la même en fait. Et donc c'est pour ça que regarder à la source, c'est pas forcément utile, mais de regarder à la solution, c'est utile si on veut s'en sortir.
Amen.
Il y a ceux qui sont découragés, qui peuvent essayer de se ressaisir. Mais il y en a qui sont arrivés à un tel stade que c'est comme si c'était plus possible. Ils n'ont plus de force et ils sont là à bout de force et ne peuvent rien faire.
Physiquement et moralement, en fait.
Et là, comment aider quelqu'un qui est dans cet état-là? Je veux dire que ça prend quelque chose de spirituel ici. Et ce n'est pas en secouant la personne, mais c'est vraiment... Élie, là, il n'y a personne qui est venu le secouer. Mais il y a l'ange de l'Éternel qui est venu l'encourager. Et pourtant, il s'est recouché la première fois. Mais on voit la patience et la bonté de Dieu. Et peut-être quelqu'un dira, mais moi, il n'y a personne. Non, non, peut-être que le gâteau est juste à côté de toi. Peut-être que l'eau est juste là et tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas entendu, tu n'as pas considéré. Il y en a qui sont tellement épuisés qu'ils n'ont même plus le goût de lire la Bible. Mais commence peut-être par là. Parce que quand quelqu'un est faible... Oui, mais même quand quelqu'un est faible, des fois, quand des grands malades, ils n'ont plus le goût de manger. Ils n'ont plus faim. Mais justement, c'est en mangeant que tu prends des forces et qu'avec ces forces, ben, ça va aider aussi à ta restauration et à ta guérison. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Il y en a qui sont tellement faibles qu'ils n'ont même plus envie de manger, de lire la Bible. Mais au contraire, c'est en lisant la parole que vous allez vous nourrir eh bien, d'un pain ici qui va vous donner cette force et vous aider à vous en sortir. Et la clé, comme on l'a vu aussi dans ces différents versets, puis même dans le verset que tu as cité, il y a le mot « salut » qui revient souvent. Et considérez votre salut. Et quand vous considérez ce que Jésus a fait à la croix et quelle est la joie qui entoure ce salut, ça va vous aider à surmonter tout le reste.
Amen. Je pense à toutes les personnes peut-être qui nous regardent aujourd'hui, à des femmes peut-être qui sont dans la dépression parce qu'elles ont été abandonnées, je ne sais pas, par leur conjoint ou par les personnes avec qui elles étaient et elles ont subi une dépression qui est en train de les miner. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire que le conseil que Pasteur Jonathan vient de donner, c'est vraiment une clé, c'est vraiment une solution que de se tourner vers Dieu. Et parfois, dans ces temps-là, ça fait tellement mal parce que le problème est là. Ça pèse encore tellement sur le cœur qu'on ne peut pas s'empêcher de méditer à autre chose que ce problème-là. Et vraiment s'ouvrir à la parole de Dieu, s'ouvrir à tout ce qui va nous faire non plus méditer le problème, mais vraiment à rechercher les solutions, à rechercher la parole de Dieu qui va venir réjouir notre cœur. C'est vraiment à ça que je vous encourage aujourd'hui. C'est vraiment ouvrez votre cœur au Seigneur et puis comptez les bienfaits de Dieu. Il y a tellement de choses que le Seigneur a déjà fait dans votre vie. On a parlé du salut. Il y a tellement de choses. Comptons les bienfaits de Dieu et puis vous allez voir que la donne va changer. La femme qui pleurait hier sera la femme qui sourit demain et qui peut amener d'autres femmes à sourire également dans la présence du Seigneur.
Amen.
Ouais, si vous êtes dans cette situation-là, nous on n'est pas là, comme on l'a dit, pour vous soucier en vous disant « mais ressaisissez-vous », on n'est pas là en train de vouloir vous écraser, mais de vous encourager à la foi. On a parlé d'espérance aussi, il a dit « j'espère en Dieu » et on veut proclamer sur vous si vous êtes atteint de dépression ou dans un état dépressif, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, par la puissance de Dieu. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous demandez, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est glorieux. Et je veux vraiment déclarer que demain, ce sera meilleur qu'aujourd'hui, que Dieu est bon et que la situation que vous traversez, ce n'est pas la finalité. Le prophète Jérémie a écrit tout un livre de lamentations. Il était le prophète par excellence de lamentations et de souffrances, et de souffrances internes, intérieures, des choses qu'il vivait personnellement. Mais on croit en la puissance de Dieu et l'évangile est cette bonne nouvelle. Et je veux vous encourager aujourd'hui, moi, à la foi. Croyez en Dieu. Croyez qu'il est assez puissant pour vous libérer. Ça ne vient pas de vous. Vous ne pourrez pas vous en sortir par vous-même, mais Dieu le fait. Et quand Christ était sur la croix, quand il a été meurtri, quand il a été frappé, quand on l'a injurié, quand on lui a craché dessus, quand son sang a coulé, quand on l'a percé, on lui a percé le flanc sur cette croix, et que le sang et l'eau a coulé, c'était pour votre pardon, mais c'était aussi pour votre guérison. La guérison de cette dépression, Jésus-Christ l'a portée à la croix. Et c'est ce que nous croyons, nous mettons notre foi en ça, en Christ sur la croix, il est suffisant. C'est la folie de la prédication. Et si vous écoutez cette prédication, l'évangile qui vous est apporté aujourd'hui, parce que peut-être certains nous regardent et vous n'avez pas encore Jésus dans votre cœur, que vous l'ayez ou pas, Christ et le sang de Jésus est suffisant pour vous libérer de cette maladie, de cet état dépressif. Et quelqu'un dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, proclamez la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu. On a donné un passage tout à l'heure, psaume 42, je crois. Retenez-le, dites-le régulièrement. Même si vous êtes sans force, vous allez voir que petit à petit, cette parole va devenir, elle est vivante. Elle va devenir force en vous, elle va devenir puissance en vous. Et vous allez vous lever de ce lit et commencer à faire quelque chose pour le Seigneur Jésus-Christ.
Amen. On va voir maintenant le témoignage d'Audrey Mac. Audrey Mac, on la voit toute pétillante, pleine de vie. Elle n'a pas toujours été comme ça. Vous allez voir qu'elle aussi a été victime de dépression. Et vous allez surtout voir comment elle s'en est sortie dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec Audrey Mac. Bonjour Audrey.
Bonjour Yveline, tu es belle et rayonnante sur ton canapé.
Merci, tu vois, je suis accordée au canapé, comme une petite abeille. Audrey, merci d'être avec nous pour nous partager cette fois-ci ton appel à la mission. Comment Dieu t'a appelé, on le sait, tu es une missionnaire, tu es très très investie, tu ne t'arrêtes jamais, j'ai l'impression, même tu enchaînes pays après pays, que ce soit dans les pays pauvres, mais comme dans les pays plus riches, en tout cas matériellement parlant, pas spirituellement forcément, mais tu es vraiment là où Dieu t'appelle. Et aujourd'hui, tu vas nous partager comment tout a commencé, comment Dieu t'a appelé. Et avant qu'on commence l'émission, tu me racontais que quand tu étais toute petite, tu avais 6 ans, un jour on t'a demandé quel métier tu voudrais faire plus tard.
Ah, oui.
Et tu avais donné une réponse très inspirée.
Mais j'étais toute petite, je devais avoir 6 ans peut-être, dans ma cuisine. Et puis j'ai une voisine qui a demandé, ben ma poulette, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et puis c'est sorti de ma bouche. Je dis, moi je vais voyager partout dans le monde, mais je serai pas un touriste. Je vais rester chez les gens. Et en fin de compte, ça paraît l'air, ma petite voisine, elle la regardait, elle a souri. Mais c'est des années plus tard que je me suis aperçue que dans mon esprit, l'appel de Dieu était déjà la même. Dans Psaume 139, on découvre que David, il savait que dans le sein de notre mère, là, même quand on est une masse informe, là, l'appel de Dieu est déjà là en
Amen.
Nous.
Amen.
Notre destin a déjà été fait, a déjà été décidé. C'est Dieu qui nous donne cet appel, même dans le sein de notre mère.
Exactement.
Donc, c'était là.
Exactement. Et toi, tu as connu le Seigneur à l'âge de 23 ans. Mm-hmm. Et puis, le Seigneur t'a appelé aux États-Unis. Tu savais pas où, tu savais pas trop comment, mais très vite, en fait, tu as su que tu devais faire une école biblique, c'est ça?
Ben oui, en fin de compte, école biblique, je savais même pas ce que c'était. Et ça a été vraiment, je vois l'orchestration. Dieu, comme je dis toujours, il est meilleur qu'un GPS, parce que son orchestration est impeccable et magnifique. Et
Amen.
Puis, j'ai rencontré une dame alors que je partais pour les États-Unis. Vraiment, les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne savais pas. Où tu vas aller? Je ne savais pas. Je savais simplement que je devais partir aux États-Unis. J'avais quitté mon boulot, j'avais fait mes valises. Et alors que j'étais en route, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, non, vous devez aller à l'école biblique. J'ai dit, c'est quoi ça? Et ben en fin de compte, j'ai atterri dans une école biblique. Elle a fait en sorte qu'elle m'a convaincue que c'est ce que je devais faire. Et c'était le Saint-Esprit aussi qui a fait un travail sur moi. Et puis elle a contacté une famille qu'elle connaissait à Tucson, Oklahoma, pour m'accueillir pendant un an. Et puis j'ai été dans une école biblique. Et je voudrais dire en fin de compte que ça s'est fait par hasard, comme dirait, ou par coïncidence, mais vraiment par, c'était l'orchestration de Dieu. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a dû me faire, j'ai dû avoir comme un lavage de cerveau.
Ouais, c'est ça.
Parce que j'ai grandi dans un milieu ou dans un, où l'impossible, on n'en parlait jamais. S'il y avait quelque chose, je me rappelle avoir grandi en disant, pourquoi on peut pas faire ça? Puis on me disait, ben, cherche pas à le faire, si ça n'a pas été fait, ça peut jamais être fait. Tu vois, c'était l'impossible, c'était non. On posait pas de questions. Il fallait pas essayer de faire ce qui a jamais été. Bref, on nous apprenait à être médiocre au lieu d'être excellent. Et puis moi, j'étais pas à l'aise. Je me rappelle, j'avais en tant que petite enfance. Mais donc le Seigneur m'a envoyée aux États-Unis où les gens rêvent, voient l'innovation, l'esprit du pionnier. Dans une école biblique.
Oui.
Et c'est ça, je dis, c'est dans cette école biblique que j'ai enfin découvert mon appel.
Que l'impossible était possible.
Que l'impossible était possible, et je dirais même mieux, parce que je reçois souvent des emails de gens qui disent, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans le ministère, ou qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je sais ce que je dois faire dans la vie si je suis appelée au ministère, et puis comment commencer, puis tout un tas de questions comme ça de jeunes qui ne savent même pas comment. Et puis moi je dis toujours, d'abord je rends grâce et je remercie Seigneur pour enseigne-moi.com, parce que les gens peuvent se nourrir de la parole au biais de cette chaîne télé.
Amen.
Et de cette site internet, mais il n'y avait pas de enseigne-moi.com à l'époque.
Ben non.
Il n'y avait pas d'école biblique que je connaissais à l'époque en France. Pas qui enseignait la parole et l'esprit.
Ouais.
Et puis donc, dans cette école biblique, là où j'ai passé un an, eh ben, ça m'a fait un lavage de cerveau. C'est là où j'ai découvert qui j'étais en Christ, ce que je pouvais faire en Christ, que l'impossible, ça plaisait à Dieu, que lui, il était un Dieu d'impossible. Et c'est dans cette atmosphère de foi, comme je dirais, comme d'une serre spirituelle, dans une bulle spirituelle, c'est là où c'était si facile d'entendre Dieu.
Oui.
Et c'est là que j'ai découvert que Dieu m'a appelée.
Mm-hmm.
Parce que dans cette église, qui était une église très branché dans la mission, il faisait des petits voyages de mission à court terme, et puis je suis allée dans un petit voyage à Haïti, et là, sous une hutte, dans un village, j'ai entendu la voix qui m'a dit, je t'appelle à prêcher l'évangile aux pauvres.
Ok, c'était très clair. Là, tu as reçu ton appel.
Et comme je dis aux gens, si vous êtes appelés, vous savez que vous savez que vous savez que vous savez. C'est pas vos parents qui peuvent vous appeler. C'est pas votre pasteur qui peut vous appeler. Personne ne peut vous appeler. C'est Dieu qui vous appelle. Et vous le savez. Vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que je suis appelée. Non, vous le savez comme votre nom est Monique ou votre nom est Evelyne ou Audrey. Moi, je sais que je suis Audrey. Je sais que je suis appelée à être missionnaire.
C'est une certitude pour toi. Et ensuite, tu rentres d'Haïti et puis tu embarques dans une troupe théâtrale.
Ben oui, j'ai d'abord fini mon diplôme. J'ai fini le diplôme, ma formation qui m'a vraiment ancrée, m'a donné une fondation dans la parole. Ça m'a donné un amour, ça m'a permis de développer cette... Parce que j'ai remarqué quelque chose, je parle dans certains pays en Europe où aller à l'église... Ce n'est pas quelque chose, ben on fait de temps en temps, c'est pas, on n'en voit pas la nécessité. Et en tant que Française, alors que je vivais, j'aimais Dieu, j'étais chrétienne, j'avais accepté le Seigneur. Les premiers 9 mois de ma vie, le dimanche à l'église, c'était pas quelque chose que je pensais que c'était nécessaire. C'est quand j'étais à l'école biblique, tout d'un coup, ben j'ai découvert que être à l'église, c'était tellement important qu'on tout d'un coup, on se greffait dans le corps du Christ. C'était là qu'on pouvait servir, apprendre qui nous étions, que nous étions. Et puis, je vais un pas à l'avant, aller dans un collège biblique aussi. Et c'est tellement, et dans un bon collège biblique.
Oui,
dans une bonne, parce que il y a des écoles bibliques qui vont vous remplir de plein de trucs intellectuels.
C'est ça, que de la connaissance.
De la théologie qui ne sert à rien. Qui va vous handicaper plus qu'autre chose, vous remplir de notions religieuses, de doctrines, comme Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est la doctrine qui vraiment va vous handicaper plus qu'autre chose. Je remercie le Seigneur qui m'a guidée dans une école et demandez au Seigneur, guide, Seigneur, quelle est une bonne école pour moi?
Amen.
Il y en a maintenant, il y en a des bonnes.
Parler du Saint-Esprit, on sera rempli du Saint-Esprit.
C'est voilà, une école qui valorise la parole vraiment et que ce soit du pratique et la communion avec le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Et puis de là, j'ai eu vraiment le prochain pas où Dieu m'a mis en avec un groupe, c'était un groupe d'évangélisation et c'était un groupe d'artistes, de théâtre, de danse, mais c'était en fin de compte, c'était un spectacle Broadway, à la Broadway, mais d'une qualité professionnelle. On est allé avec cette équipe, on est allé Carnegie Hall. Le Carnegie Hall, c'est dans une ville, je crois que c'est dans Pittsburgh, où il y a les plus grands talents, que ce soit danse, musique et des philharmoniques qui ont le droit d'être dans ce hall là. Et puis nous, on est allé dans les théâtres du Bolchoï en Russie. On a eu des portes ouvertes parce que la qualité de ce spectacle, mais c'était l'évangile au travers du mime, de la danse, des spectacles et tout un tas. Et puis moi, j'ai eu l'opportunité, après avoir été fidèle pendant un an, à plier des t-shirts et à vendre des CD VHS. Dieu m'a donné un rôle en fin de compte où j'étais sur l'estrade à faire de la danse et du théâtre et du mime. Et on a vécu des choses magnifiques.
Et t'es resté combien d'années avec eux?
Pendant 4 ans. Pendant 4 ans et là on a été dans toute l'Europe. On a fait un tour européen. On est allé en Finlande, en Suède, en Auvergne, en Norvège, en Russie. Après que c'était on est allé en Russie en fin de compte dans des pays. Pendant que c'était
le communisme
régnait, on avait le KGB qui nous suivait, il y avait des trucs, mais on a vécu des choses du style James Bond, tu vois, vraiment.
Et puis au bout d'un moment, le Saint-Esprit te dit que c'est terminé avec eux.
Voilà, il m'a dit maintenant, c'est le temps. Bah, j'ai versé une petite larme parce que c'était des moments formidables pour moi où j'ai appris des choses, comment travailler en équipe, la vie de c'est vraiment comment une église est supposée fonctionner. C'était ça en fin de compte. Et on a lié des amitiés, des choses fantastiques. Et puis, ben de là, j'ai fait après, j'ai, J'ai fait une formation parce que je savais que j'étais missionnaire. Donc, j'ai dit que j'ai fait une formation en tant que missionnaire. J'ai appris plein de choses. Comment être missionnaire, comment aller sur le champ de mission. Parce que c'est pas évident.
Non, c'est sûr.
Être mission, en tant que femme et être missionnaire, il y a des choses que l'on doit savoir. Moi, je dis aux gens, ben, si vous êtes jeune et que vous voulez, vous savez que vous êtes appelée à être missionnaire, allez dans des voyages, des petits voyages de mission, que ce soit une semaine, deux semaines, un mois.
Pour se former.
Pour vivre des choses, pour voir vraiment est-ce que la mission est pour moi. Et puis vraiment pour et puis en tant que jeune ou que ce soit moins jeune, je dis ben commencez déjà par un voyage à court terme. Quelque chose où vous mettez les pieds dans l'eau. Et c'est déjà un bon commencement et ça va vous permettre de voir qu'est-ce que c'est que la mission. Et puis je crois qu'il y a beaucoup plus de je veux encourager les églises à faire ça, à faire des voyages mission à court terme, à avoir des gens de vos églises parce que ça les sensibilise, ça leur permet de voir ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde parce que des fois on a tendance à être replié sur notre nombril ici et ça nous ouvre les yeux sur le monde. Et puis en fin de compte quand j'ai commencé dans la mission, ben j'ai commencé en Albanie, puis on voit aussi des photos là. Et puis en Albanie, j'ai suis restée 9 mois, puis j'ai fait plein de choses. Parce qu'au début du ministère, en fin de compte, Dieu nous permet de faire plein de choses.
On touche à tout.
On touche à tout, oui. Ben, j'avais un ministère dans les orphelinats. Parce que j'avais eu de l'expérience dans le théâtre. Donc, j'ai enseigné les gens comment faire du théâtre. On était dans les rues. On voit là une image où j'avais écrit des pièces de théâtre dans la rue. Et puis les gens dans la rue, à chaque fois comme à Paris, s'il y a quelques personnes qui se réunissent, qui font un petit peu de la danse, du break dance ou du théâtre ou quoi que ce soit, les gens se réunissent. Et puis de là, on a vu plein de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et puis on a fait même dans un théâtre, on voit la photo d'en haut, là où j'avais enseigné, en fin de compte, c'était à Noël. Qu'est-ce qui s'est passé à Noël? Et puis j'avais enseigné, c'était formidable, plein de gens qui étaient venus au Seigneur. On voit la dame là qui avec son petit fuseau, on est allé dans les montagnes où personne n'avait jamais mis le pied. On est allé dans des villages à sac à dos pour prêcher l'évangile. Et puis on a vécu des choses formidables.
C'est merveilleux.
Et puis de là, il y a eu la prochaine étape où je suis allée en Inde. On voit là une photo où je suis en Inde devant le Taj Mahal. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a un appel, des fois Dieu nous donne des déjà-vus. Et je sais pas si ça t'est arrivé, j'en suis persuadée, que des fois il y a des choses que tu vois. Je me rappelle m'être vue toute petite devant le Taj Mahal. Une autre fois, je m'étais vue quand j'étais là en Russie sur la place rouge. J'ai eu comme un déjà vu. Je dis, je me suis déjà vue là, mais pourtant, j'ai jamais mis le pied. Et c'est ça, en fin de compte, si vous avez ce genre de déjà vu, vous dites, je suis jamais venue ici, mais j'ai l'impression que j'ai déjà été là. C'est en fin de compte, c'est une confirmation de Dieu qui te dit, tu es au bon endroit en train de faire la bonne chose. C'est Dieu qui te dit, tu es en plein centre de ma volonté.
Amen.
C'est déjà vu qu'on, des fois, qu'on est en train de vivre, c'est Dieu qui dit, ouais, tu es en train de faire ma volonté.
Amen. Et il y a eu l'Inde. L'Inde, on en a peu parlé, mais l'Inde, c'est quand même un gros morceau parce que Dieu t'avait vraiment donné un cœur pour l'Inde. Et là, en Inde, ça a été particulier. Ça a été ta première mission en solo, entre guillemets, le sens où le Saint-Esprit t'a dit, tu vas être complètement dépendant de moi, de A à Z, financièrement, mais même dans tes déplacements, dans ce que tu allais faire. Tu étais complètement dépendante du Saint-Esprit.
Et je crois, en fin de compte... Il n'y a pas longtemps, j'ai enseigné tout un cours sur le ministère itinérant. Et je disais, Seigneur, je referai des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y a à dire. Il n'y avait rien du tout. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, dans Marc 6, tu as tout ce dont tu as besoin. Et j'ai découvert que dans Marc 6, c'est Jésus qui enseigne ses disciples qu'est-ce qu'il doit faire. Il les envoie en mission. Et une des premières choses qu'il leur dit, il dit, ne prenez pas de sac, prenez pas de manteau, prenez même pas une deuxième paire de souliers. Et prenez pas d'argent. Et puis les envoyer vraiment là, à l'aveugle, entre guillemets, une foi complètement aveugle, et c'est ce que le Saint-Esprit a fait avec moi. Quand j'étais en Inde, toute seule, je connaissais personne, il m'a dit, ne reçois aucun fonds des États-Unis, rien du tout, fais-moi confiance. Et puis de là, vraiment, c'est là où j'ai appris à faire confiance au Saint-Esprit, où j'ai vraiment, il me disait des fois, je rencontrais quelqu'un qui me disait, ben moi je connais quelqu'un dans telle ville, puis il m'écrivait le nom de la personne sur un bout de papier, alors j'avais le nom de la personne, et puis après le Saint-Esprit me dit, bon, va dans le train, sors du train, et puis voilà, va trouver cette personne. D'accord, je prends le train, 3 heures de train, je sors du train, et puis maintenant quoi?
Ben oui.
Puis il me dit, va près de cette voiture. Je vais près une voiture blanche, et puis il y avait derrière, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Alors je dis, ah ben ouais, bon, je me tiens derrière la voiture, puis j'attends. Puis il y a deux bonhommes qui arrivent et qui me disent, j'ai dit, monsieur, excusez-moi de vous parler, est-ce que vous connaissez cette dame? Ils me disent, ah oui, on la connaît très bien, on vous amène chez elle. Puis je rentre dans la voiture, ils me déposent chez cette dame. Et puis, je reste chez elle, elle m'accueille. Et puis, on m'avait donné le nom d'un autre pasteur en me disant, ce pasteur-là, on l'a connu il y a 20 ans. On ne sait pas s'il est toujours vivant, mais voilà, je te donne le nom. C'était pasteur Nazim. Et puis, dans une ville qui a 1 million d'habitants, tu vois, il s'est trouvé quelqu'un sans annuaire téléphonique.
C'est fou.
Pas d'Internet à l'époque, c'était 1994. Et puis donc, je lui dis, je connais le nom de cette personne. Elle me dit, non, pas du tout. Je lui dis, le Saint-Esprit me dit, commencez à conduire dans la ville, moi je vous guide. D'accord, on va dans la voiture, on conduit. Et puis tout d'un coup, il y a un portail qui dit dessus Maranatha. Et puis le Saint-Esprit me dit arrête-toi là. Je dis d'accord, je m'arrête, on sort de la voiture, puis je vais voir le portier. Puis je dis excusez-moi de vous déranger, vous connaissez ce monsieur-là, pasteur Nazim? Il me dit ah oui, c'est le directeur de notre école. je dis vous pouvez aller le chercher, puis il est allé, puis du coup on est devenus amis, puis ce monsieur il m'a reçu chez eux, je suis restée chez eux, puis j'ai enseigné dans leur école pendant 2 mois et demi, et puis ce jour-là, des fois, j'écris toujours à sa femme, et puis des aventures comme ça, c'était d'une aventure à une autre, et en fin de compte, ça m'a même ouvert des portes de là à faire des campagnes évangéliques avec des ministères comme, je dis pas les noms parce que ce sont des noms très connus, mais de là, ça a été vraiment le Saint-Esprit qui m'a guidée, mais j'ai dû apprendre cette leçon, que c'était Dieu qui était ma source, c'était à lui que je devais me confier, pas à l'homme, c'était lui qui ouvrait les portes, et on doit tous dans la mission et dans le ministère, je pense passer par là et c'est important.
Et dernièrement, il y a environ 10 ans, le Seigneur t'a rappelé vers la francophonie, donc un autre type de mission. Et là, c'est ce que tu fais actuellement. On a quelques minutes pour parler de
oui,
ça.
Oui.
Comment ça s'est passé, cet appel pour la
francophonie? En fin de compte, en 1987, j'avais reçu une parole de prophétie de mon pasteur qui m'a dit « Dieu te rappelle vers ton peuple ». J'avais pas bien compris, donc j'avais mis la parole sur l'étagère. Et c'est 20 ans, presque à la semaine près, je suis à Genève, derrière un pupitre où j'enseigne pour la première fois en français, et j'entends le Seigneur qui me parle derrière, qui me dit, c'est ça dont je t'ai parlé il y a 20 ans, je te rappelle vers le peuple francophone.
Alléluia.
Et c'est intéressant parce que maintenant, ça fait 11 ans que mon mandat, c'est la francophonie. J'ai à cœur la francophonie. Et même le premier voyage que j'avais fait en Haïti, où j'avais reçu mon appel en tant que missionnaire, j'étais partie de là parce que mon cœur, j'avais tellement aimé, j'avais reçu mon appel et j'ai dit, je reviens à Haïti. Et puis des années se sont écoulées, puis je suis pas revenue en Haïti, puis je me suis sentie blanche, disant, mais j'avais dit aux gens que je revenais à Haïti. Et c'est 25 ans plus tard qu'un pasteur qui est un ami à moi, et a commencé une école biblique à Haïti. Et puis maintenant, depuis 2012, j'y retourne presque 3 fois par an.
Oh.
Et puis on voit une photo, là, voilà, j'ai fait une conférence de femmes où on enseigne il y avait presque 1000 personnes, là.
Wow.
1000 femmes qui avaient faim pour le Seigneur. Une école biblique avec des centaines d'élèves, des pasteurs qui viennent de partout de l'église. Et puis la francophonie, c'est le moment pour la francophonie.
Amen. Et on voit que Dieu aime la francophonie parce même, il est venu te chercher alors que tu étais dans des peuples où on peut se dire, mais il y a un vrai besoin dans ces peuples. On parle de l'Inde, on parle
le Vietnam. Birmanie.
Il y en a eu tellement. Il y en a eu 50, tu me disais, plus de 50 pays.
En comptant tous les pays, je me suis arrêtée un petit peu de compter, mais je crois que ça a dépassé la cinquantaine.
C'est énorme.
Mais
Dieu t'appelle là pour la francophonie. Et vous qui êtes francophone, qui nous écoutez, Audrey, Dieu l'a déplacée pour nous, pour la francophonie. C'est parce que Dieu aime la francophonie, vraiment. Et j'aimerais vraiment vous dire que la mission, c'est aussi en francophonie, dans des pays qui ont l'air très riches matériellement, mais spirituellement, qui sont désespérément pauvres et qui sont affamés et assoiffés de la parole de Dieu. Donc, Audrey, là, tu es en plein, tu me disais, tu as l'impression que c'est comme si ta mission pourquoi Dieu vraiment t'a appelé. C'est vraiment maintenant que tu es en train de le faire dans la francophonie. Et on te remercie pour ce que tu fais pour la francophonie. Merci d'être disponible. Et merci de nous avoir partagé un bout de ton histoire, de cet appel extraordinaire que Dieu a mis sur ta vie.
Gloire à Dieu pour la vie d'Audrey, pour ce qu'il a fait dans sa vie. C'est un témoignage qui nous fait du bien et qui encourage. Et il reste quelques minutes, mais Jonathan, est-ce que tu voudrais bien prier pour nos téléspectateurs qui nous écoutent? Tu as fait une pensée qui est super et je crois que vraiment tu as une compassion pour ces gens qui souffrent. Alors si tu veux bien prier pour eux.
J'ai peut-être à cœur de rajouter qu'il ne faut pas se culpabiliser et de venir rajouter un poids supplémentaire en disant comment est-ce que Dieu... Non, il n'y a pas de culpabilité ici, il y a de la miséricorde, il y a de la compassion, Dieu vous aime.
Amen.
Seigneur, tu connais celui qui aujourd'hui a un cœur lourd, un cœur peiné, un cœur, c'est difficile, et qui a du mal même à recevoir ces paroles en disant « mais comment est-ce que je pourrais m'en sortir ?» Seigneur, je prie de venir susciter de la foi dans leur cœur, que ta parole soit une inspiration, qu'ils puissent se nourrir de cette parole, qu'ils puissent se réjouir en toi, qu'ils puissent tourner les regards vers toi, croiser ton regard d'amour, croiser ton regard de compassion, et que tu puisses venir leur dire toi-même, combien tu les aimes et que tu veux leur tendre la main pour les relever, les restaurer, qu'il y a de l'espoir et qu'en toi, tout peut changer aujourd'hui. Tu changes leur deuil en allégresse. Seigneur, merci parce que toi, tu connais chacun et nous croyons maintenant avec foi que tu agis et que tu interviens dans les secrets des cœurs. Amen.
Amen, amen. Oui, vous le louerez encore, vous célébrerez encore le nom du Seigneur. Croyez-le, c'est une parole certaine. Merci à vous d'avoir pris le temps de faire cette émission avec moi sur ce thème important. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite un merveilleux week-end dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.